Bonjour à tous. Connaissez-vous Cléopâtre? La connaissez-vous autrement qu'au travers toutes les représentations que nous ont offert les divers artistes, mais aussi les médias depuis des années, voire des siècles? Aujourd'hui va être l'occasion d'en apprendre davantage et autrement. Je vous propose d'aller rencontrer la reine d'Égypte, mais également ses proches, ceux qui, avec elle, ont participé à ce basculement, à ce dernier siècle avant notre ère, et qui ont amené les prémices de cet empire romain qui allait persister encore 4 siècles. Je vous propose donc de débuter notre voyage en 69 avant Jésus-Christ et de nous retrouver à Alexandrie. Nous sommes en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Alexandrie est la capitale du royaume d'Égypte, la capitale choisie par la famille régnante à l'époque, la famille des Ptolémées. Et si cette famille est installée en Égypte depuis presque 3 siècles, elle n'est pas égyptienne. En effet, les Ptolémées sont grecs, des gréco-macédoniens pour être exact. Ils sont les proches d'un très grand général que nous connaissons, nous, sous l'identité d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a eu sous sa houlette le plus grand empire que le monde eût connu à cette époque-là. Et cet empire, il l'a étendu jusqu'à l'Égypte, voire même les territoires au-delà de la Syrie. Et cette conquête de l'Égypte s'est faite aux alentours de 331 avant Jésus-Christ. Il y a établi donc ses plus proches, et parmi lesquels le général Ptolémée, qui a donc été établi à Alexandrie à cette époque-là. Et depuis, le général Ptolémée, eh bien, ce sont les membres successifs de cette famille, de la famille des Lagides, qui gouvernent encore au moment de la naissance de Cléopâtre, 7e du nom, notre Cléopâtre, qui naît donc en 69 avant Jésus-Christ. Le père de la petite Cléopâtre 7, donc, c'est Ptolémée 12, Ptolémée Aulète. Alors, l'identité de la mère de Cléopâtre, il y a beaucoup de discussions des historiens et autres archéologues sur le sujet. On pense que ce serait Cléopâtre 6, sans certitude, elle pourrait très bien être une des nombreuses concubines que Ptolémée 12 a eues à ses côtés. Cléopâtre grandit dans cette famille où l'on pratique, à l'instar des familles royales précédentes établies avant les Ptolémées, des mariages entre ses différents membres. Au moment du 17e anniversaire de Cléopâtre, celle-ci se retrouve mariée à son tout jeune frère, Ptolémée XIII, qui, au moment de l'union, n'a que 10 ans. Autant vous dire que pour Cléopâtre, qui est déjà extrêmement ambitieuse à cette époque-là, elle n'a que faire de s'entourer d'un mari qui n'est pour elle qu'un enfant. Et nous allons voir très vite que cette toute jeune femme de 17 ans nourrit déjà des ambitions sans bornes pour son royaume. Cléopâtre monte sur le trône avec, comme je viens de vous le dire, son jeune frère, son jeune époux, qui devient donc le pharaon Ptolémée XIII en 51 avant Jésus-Christ. Seulement voilà, Cléopâtre n'entend pas régner avec ce jeune enfant qui n'a pour elle en aucun cas les qualités requises. Elle a déjà des idées bien préconçues sur ce qu'elle souhaite faire de son royaume. Il faut savoir que les pharaons successifs qui se sont succédés à la tête du royaume d'Égypte portent une couronne bicéphale, la couronne de Haute et Basse Égypte. L'Égypte est un pays immensément riche, mais un pays qui est assujetti aux conditions climatiques et surtout aux crues de son fleuve, le fleuve Nil, qui peut tout autant en assurer une immense prospérité que plonger le pays dans la plus profonde des famines. Mais au moment où Cléopâtre monte sur le trône, le pays est immensément riche au point d'attiser les convoitises des grands empires voisins et notamment de son voisin le plus puissant qui le convoite depuis un moment, à savoir l'Empire romain. Et les Romains, du reste, sont des alliés et des partenaires de choix pour le royaume d'Égypte. Ptolémée XII Aulète, le père donc de notre Cléopâtre, durant son règne, comme son père et son grand-père avant lui, ont eu à solliciter la pluie et l'aide des Romains pour faire taire les différentes rébellions qui avaient commencé à éclore un peu partout dans le royaume. Car comme je vous l'ai dit au tout début, la famille de Cléopâtre n'est pas assise solidement sur le royaume d'Égypte. Elle n'est pas légitime d'après le peuple. Elle n'est pas égyptienne complètement. Le peuple n'en veut pas et va donc n'avoir de cesse de se rebeller. Et l'Égypte va donc faire appel au soutien notamment militaire des Romains pour venir les aider. Et bien évidemment, le soutien des Romains ne se fait pas sans un intéressement. Et cet intéressement va se concentrer autour des richesses de l'Égypte, mais autour de son grenier à grains, autour de ses céréales. Car figurez-vous qu'une cité comme Rome, dont la population grandit de façon exponentielle durant ce dernier siècle, il faut la nourrir. Et cela demande des quantités astronomiques de céréales. Et donc des approvisionnements conséquents. Et cette alliance, presque ce rapport de vassalité qui s'est instauré au fil du temps et au fil des dirigeants Ptolémée avec leur aval, eh bien pour Cléopâtre VII, pour notre Cléopâtre au moment où elle monte sur le trône en 51 avant Jésus-Christ, ça n'a que trop duré. Et elle souhaite une seule chose, que les choses changent. Et un certain général romain va lui donner les moyens de ses ambitions. Du moins, c'est ce qu'elle croit, parce qu'elle va être très vite dépassée par la situation politique et l'instabilité politique même qui règne à Rome. Au moment où Cléopâtre monte sur le trône en 51 avant Jésus-Christ, la République romaine est encore assaillie des troubles. Encore assaillie de ces troubles qui ont failli l'amener à sa perte et dont elle n'est pas encore totalement sauvée. En effet, quelques années auparavant, celle-ci a failli être attaquée par la révolte menée par un certain Spartacus. Et cette révolte a été réprimée par deux grandes figures qui vont s'en disputer la primeur, Crassus et Pompée, deux grands généraux, deux grands consuls qui vont avoir eux aussi à composer de manière tout à fait régulière avec le royaume d'Égypte. Et ils vont très vite être rejoints par une autre grande figure, celle d'un autre grand général qui se nomme Jules César. Pompée et Crassus donc cherchent des appuis cherche des appuis auprès notamment des rois et reines d'Égypte pour consolider leur place au Sénat et leur permettre d'atteindre une fonction encore plus prestigieuse que celle de consul, celle de dictateur. Alors attention, la fonction de dictateur n'a rien à voir avec l'image que nous en avons aujourd'hui. Le dictateur romain est un magistrat qui détient tous les pouvoirs pendant une durée de quelques mois seulement. Et ces pouvoirs lui sont conférés par le Sénat. Ces pouvoirs sont des pouvoirs par lex imperium. C'est pour cela que on pense à tort que César porte ou a porté le titre notamment d'empereur. Mais César n'a jamais été couronné empereur. Il a porté les titres de consul et surtout de dictateur. Ces fonctions que convoitent plus que largement Pompée et Crassus, mais qui doivent en passer par des victoires militaires pour légitimer leur parcours politique. Et cela, tout le monde le sait. Si on veut pouvoir atteindre une fonction élevée au Sénat, il faut en passer par des victoires militaires et par un soutien militaire d'une puissance voisine. Et l'Égypte est la puissance voisine la plus proche avec laquelle, justement, Rome a déjà des liens privilégiés. Il est donc tout à fait normal que Pompée se décide d'aller rendre visite aux souverains égyptiens que sont Ptolémée XIII et sa jeune épouse Cléopâtre VII qui ne résident pas en Égypte au moment où Pompée arrive sur place, pas du tout. Elle est en exil non loin de la Syrie. Elle a comploté plusieurs fois contre son frère pour le faire assassiner. Du reste, lui a rendu la monnaie de sa pièce en essayant également de la faire assassiner avec l'aide et le concert de son autre sœur Arsinoé. Bref, Cléopâtre VII est persona non grata en Syrie. Et elle aussi aurait souhaité avoir le concours de Pompée pour pouvoir revenir en sa capitale et régner comme elle l'entend. Mais ce n'est pas par l'aide de Pompée qu'elle va y parvenir, mais par celle de l'autre consul qui va lui aussi débarquer en Égypte après ses éclatantes victoires opportunistes durant sa célèbre guerre des Gaules. Ce n'est pas Crassus, c'est Jules César. Et pour cause, Pompée a été exécuté par Ptolémée XIII quelques mois avant. Voilà donc notre Cléopâtre qui se décide donc à contacter Jules César qui lui s'est rendu de manière tout à fait régulière à Alexandrie et qui a demandé audience auprès de Ptolémée XIII pour solliciter son appui. Qui de Ptolémée ou de Cléopâtre Jules César va-t-il rencontrer en premier? Avant de nous intéresser à la rencontre de Cléopâtre et de Jules César, rencontre qui va être le ciment de leur alliance future, rencontre durant laquelle ils vont évoquer la place même du royaume d'Égypte, il est important de parler avant tout des atouts de la reine d'Égypte. Et quels sont-ils ces atouts? Cléopâtre nous est parvenue comme une femme extrêmement sensuelle. Une femme d'une beauté sans pareille, une femme presque à l'égal des deux impératrices romaines qui suivront dans quelques années et qui incarnent à elles seules la luxure, la débauche et le sexe que sont Messaline et Agrippine. Eh bien, Cléopâtre, pour ses contemporains et notamment romains, et c'est très important et vous comprendrez pourquoi, pour la propagande notamment d'Octave pour la suite, eh bien Cléopâtre incarne la luxure, la sensualité, bref, tout ce que une femme romaine respectable n'est pas. Et clairement, pour les Romains, ce charme tapageur n'est pas un atout du tout pour Cléopâtre. Alors, Cléopâtre était-elle belle ? Il est indéniable, comme le disent Plutarque et Suétone, que Cléopâtre avait du charme. Elle avait du charme et une voix somme toute agréable. Mais son charme n'était pas tant concentré sur des atouts physiques qu'un charme qui se concentrait plus sur des qualités intellectuelles. Cléopâtre est une des femmes les plus lettrées de son temps. Elle est polyglotte, parle une douzaine de langues, a reçu durant sa jeunesse un enseignement de qualité, prétendante au trône, elle a reçu des enseignements aussi divers que de la médecine, les sciences, l'astronomie. Elle a eu bien évidemment les plus grands précepteurs de l'époque en ingénierie, en mathématiques, et était, d'après les sources de l'époque, extrêmement douée dans ces matières. Bref, c'est une femme lettrée, une femme intelligente, une femme qui est au fait des grandes questions géopolitiques de son temps. Elle connaît le jeu des alliances, elle sait à qui elle a affaire, elle sait comment s'organise la diplomatie de l'époque, et cela pour une jeune femme qui n'a pas encore 20 ans, croyez-moi, c'est essentiel et c'est ce qui va la guider de 50 avant Jésus-Christ, donc au moment où elle monte sur le trône, jusqu'à sa toute fin, jusqu'au 12 août 30 avant Jésus-Christ, au moment de son décès. Nous ne sommes pas encore à la fin de son règne, nous allons maintenant nous intéresser à cette rencontre, la fameuse rencontre qui a fait couler tant d'encre, qui a été écrite et réécrite, la rencontre mise en scène, avec cette mise en scène digne du plus grand cinéma, où Cléopâtre s'est enroulée dans un tapis qu'elle aurait offert à Jules César. Alors, il convient de nuancer parce que cette anecdote du tapis, elle n'est pas confirmée par toutes les sources. Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, elle a été présentée à Jules César, mais que Jules César a quand même souhaité, bien évidemment, rencontrer le roi Ptolémée XIII et de s'en faire un allié de poids. Et comment s'en faire un allié de poids ? Eh bien, en rachetant les dettes de Ptolémée XIII à son propre compte, puisque le roi d'Égypte avait des dettes auprès de financiers romains. Une fois que ces dettes rachetées, Jules César, qui, je le rappelle, à l'époque est marié, il faut le dire, il est marié et il n'est pas du tout intéressé par une quelconque liaison. Jules César est un homme marié, un homme fidèle. Il est marié, il a une fille qu'il a mariée justement à son rival Pompée, Iulia, qui malheureusement est morte en couche. Et Jules César, donc, lui, dans les années qui vont suivre, donc 47-48, eh bien, va avoir de cesse d'essayer de réconcilier les souverains lagides, donc les deux souverains égyptiens que sont Ptolémée XIII et la reine d'Égypte, donc Cléopâtre, pour s'en assurer le soutien très important pour pouvoir ensuite retourner à Rome et assurer sa place, bien évidemment, au Sénat. La ville est loin d'être guérie de ses troubles et la République est loin d'être assurée. C'est pour cela qu'il est très très important de s'assurer de ce soutien et il va arriver clairement à s'assurer l'appui de Cléopâtre parce qu'il sait reconnaître l'intelligence de la jeune femme et bien évidemment le charme qui est le sien, mais il veut surtout s'assurer aussi l'appui du roi. Au départ, il n'entend pas du tout gouverner, uniquement assurer la place de Cléopâtre. Bien évidemment, il va finir par y consentir et accepter le décès, somme toute providentiel, de Ptolémée XIII qui meurt noyé en 48, donc avant Jésus-Christ, ce qui permet à Cléopâtre de monter sur le trône. Alors, si elle monte sur le trône, elle n'y monte pas toute seule, pas du tout. Elle épouse l'autre frère de Ptolémée XIII, son autre frère à elle, donc du coup, Ptolémée XIV, qui bien évidemment, lui, pour elle, ne représente rien qu'un moyen de régner, et elle va avoir la garantie par César que le nom de Ptolémée XIV ne figure même pas sur les différents documents officiels, mais que ce soit son nom à elle et que l'Égypte soit sous protectorat romain. Alors, il y a toujours certes cette relation de vassalité, mais il y a quand même là la marque déjà de Cléopâtre qui règne seule et elle fera empoisonner plus tard son frère Ptolémée XIII et là, elle règnera toute seule. Alors, le séjour de César s'éternise à Rome, il s'éternise tant et tant que bien évidemment commence à se questionner l'intérêt qu'il a pour Alexandrie et les mauvaises langues à Rome, bien évidemment n'ont de cesse de répéter que Cléopâtre a déjà marqué César de son empreinte et qu'elle ne compte pas le lâcher. Et ça va être une surprise assez incroyable lorsque Jules César va rentrer, mais il ne va pas rentrer tout seul, figurez-vous, puisque lorsqu'il le revient à Rome, il revient avec la reine d'Égypte qu'il va établir dans une de ses villas au bord du Tibre. Cléopâtre est à Rome et déjà la cité est en effervescence et déjà mille et une rumeurs courent à son sujet. Rumeur répandue davantage encore au sommet de cette société romaine, au plus haut de celle-ci, dans la haute aristocratie où les matrones, ces dames très respectables, s'en indignent autant qu'elles la jalousent et que les commérages qu'elles entretiennent entre elles n'ont d'intérêt que de savoir quelle est la mode à l'égyptienne, car elles souhaitent, elles aussi, en avoir leur part. Alors, à chacun des banquets, à chacune des réceptions données en l'honneur de la reine d'Égypte, elles observent tout, la moindre de ses parures, le moindre de ses gestes, le moindre de ses mots. Elles le raillent, le jalousent, le reprennent. Bref, toute la société passe pour ces quelques semaines, quelques mois, à l'heure égyptienne. La société romaine est très peu au fait des cultures des autres pays. Elle ne s'y intéresse guère, et il faut dire que la présence de cette reine d'Égypte est une ouverture pour elle sur ce qu'elle appelle l'Orient et ses coutumes si extraordinaires, mais si étranges et étrangères à la fois. Et de voir Cléopâtre ainsi parée par des tuniques à la transparence presque outrageante séduit les hommes autant qu'elles indisposent les femmes et qu'elles les font rougir. Car si Cléopâtre incarne cette féminité outrageante, cette sensualité et ce charme qui indispose les femmes et qui rend fou les hommes, à l'opposé, les femmes romaines incarnent les valeurs que sont la vertu et la pudicité poussées à l'extrême. Certes, les tenues des matrones sont du plus riche éclat, mais elles ne laissent entrevoir aucun sein, aucun membre autre que les bras, par exemple, qui ne sont que très rarement découverts ou alors de manière fort judicieuse. Bref, une matrone romaine ne s'offre pas entièrement nue à la vue de tous. Il en va de son honneur et de l'honneur de sa maison. Et cela, les matrones romaines entendent que certains ne l'oublient pas. Cléopâtre indispose donc de plus en plus cette société qui la jalouse, qui la raille. Mais ce qui indispose Rome, ce n'est certes pas la personnalité décadente de Cléopâtre, tant que l'influence qu'elle semble avoir sur César et sur l'ambition de celui-ci. César a fait partie de ce que l'on a appelé le premier triumvirat. Un triumvirat composé à l'origine des consuls Crassus et Pompée. Crassus et Pompée étant morts tous les deux, César est donc le dernier des trois consuls encore en vie. Et il a la volonté de se faire nommer dictateur à vie. Alors oubliez carrément tout ce que vous savez sur le mot dictateur. Cela n'a rien à voir avec le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Le dictateur est un magistrat, un des plus hauts magistrats du Sénat, nommé par lui lors d'un rituel bien précis et pour une durée bien précise de quelques mois seulement, durant lesquels il a les pleins pouvoirs à la fois civils et militaires et durant lesquels il peut imposer à tous sa propre loi, la Lex Imperii. Et donc, cette fonction de dictateur n'est guère plus sécuritaire que celle qui interviendra après l'arrivée d'Auguste au pouvoir, celle d'empereur. Mais cela, Jules César ne le sait pas encore. Il a des ambitions et il escompte bien que la présence de Cléopâtre ne vienne pas à les saper. Il arrive donc à se faire, bien évidemment, élire dictateur à vie. Seulement, les complots commencent à poindre et, bien évidemment, l'insécurité dans la ville de Rome monte à son paroxysme et va exploser en 44 avant Jésus-Christ, au moment où Jules César est assassiné, plongeant sa ville, sa capitale, dans une guerre civile. Cléopâtre est toujours présente au moment de l'assassinat de César. Elle lui a même donné un fils, Césarion, un fils qu'elle escompte être le digne héritier de César. Elle escompte que César le fera et le reconnaîtra comme étant son seul et unique héritier, parce qu'elle sait que César a plusieurs héritiers potentiels, parmi lesquels Brutus, son fils adoptif, mais aussi un de ses petits-neveux, Octave. Elle ne veut pas du tout en entendre parler, mais l'assassinat de César bouscule ses plans. Et sa colère de découvrir que Césarion n'a pas été reconnu par son père comme son héritier lui ouvre au final d'autres perspectives qu'elle va bien avoir l'occasion et tout faire pour exploiter dans l'intérêt toujours de hisser l'Égypte au plus haut, à l'égal de la République romaine, de ne plus en être un vassal, mais un égal indispensable. Et l'arrivée impromptue de Marc-Antoine va, croit-elle, lui permettre de concrétiser cela. Elle se trompe car elle a misé sur un cheval très décadent. L'aube n'est pas encore levée. Nous sommes au premier jour du mois d'avril 44 avant Jésus-Christ. Et voici qu'une jeune femme quitte furtivement une des villas du centre de Rome. Elle la quitte furtivement, sans bagages, sans cortège, tout au plus accompagnée d'une escorte légère, dans le but de lui faire quitter, dans un incognito des plus totales, cette ville. Il est prévu de rejoindre le port pour y prendre un bateau qui la conduira tout d'abord en Grèce, puis à Alexandrie, où elle retrouvera sa capitale, sa sécurité et donc, par le fait, son royaume. Pour garantir cet incognito, la jeune femme s'est couverte d'une longue cape qui la dissimule entièrement aux regards les plus indiscrets. Elle tient contre sa poitrine, doucement et fermement à la fois, son tout jeune fils, son premier-né, qui lui est encore alangui, tout endormi contre elle. Il laisse à peine échapper quelques légers vagissements que la jeune femme essaie d'étouffer le plus doucement possible. La petite troupe quitte donc furtivement le centre de Rome le plus vite possible, car elle se sait en danger et pour cause. Quelques semaines auparavant, le 15 mars 44, son protecteur, celui en qui Cléopâtre avait mis tous ses espoirs, celui qu'elle avait rencontré lors de son accession au pouvoir quelques années plus tôt, en 50 avant Jésus-Christ, celui qui avait essayé de la réconcilier, qui était même parvenu à la réconcilier avec son premier époux, celui qui avait fini par la reconnaître elle-même, entièrement seule, comme reine et pharaon du royaume d'Égypte, celui qui avait accepté qu'elle laissât son sceau sur les documents officiels, celui qui était devenu plus qu'une relation diplomatique, celui qui était devenu un amant et le père de son fils, celui qui lui avait juré protection, celui-là même venait de mourir et de rencontrer une mort atroce sur les marches mêmes du Sénat qu'il était tant habitué à fréquenter ces dernières années et surtout ces dernières semaines. Jules César a donc rencontré son destin final le 15 mars 44 avant Jésus-Christ à 11h du matin. Il s'est retrouvé comme à l'accoutumée en pleine séance du Sénat face à 600 sénateurs prêt à écouter les différentes questions du jour. Mais au lieu d'une traditionnelle séance, le voilà qui fait face à une meute de sénateurs bien décidés à en découdre. Et le plus douloureux pour César, c'est de constater que parmi cette meute de sénateurs haineuses se trouve non moins que son propre fils adoptif, Brutus, celui en qui, au départ, César avait mis tous ses espoirs, et également un autre de ses amis, Cassius. Il est frappé de tous côtés, il ne parvient pas à se défendre. Il recevra plus d'une dizaine de coups de couteau et mourra dans d'atroces souffrances. La ville, une fois qu'elle a connaissance de la mort de celui qu'elle a tant aimé, de celui qui a su se faire aimer autant des soldats que de la plèbe par les présents qu'il leur a faits, la ville s'effondre. Et de la rumeur finit par accoucher ce qui semble être le début d'une guerre civile, avec les premiers affrontements. Les premiers affrontements qui vont concerner les conjurés eux-mêmes, ceux qui ont porté les coups, on les traque dans toute la ville. Mais si on traque avec acharnement les conjurés, ceux qui ont hâté le trépas inévitable de César, on n'en traque pas moins avec le même acharnement les proches mêmes du dictateur. Car il était de coutume, lorsque un haut responsable romain venait à décéder, de faire place nette, c'est-à-dire d'assassiner et de faire taire tout son cercle proche, entendre ses sympathisants, mais aussi et surtout sa famille, comprendre épouse, esclave, enfant, cercle familial élargi. Autant vous dire que Cléopâtre, à ce moment précis, au moment où elle apprend la mort de César, se sait en danger. Elle sait qu'il faut qu'elle quitte à tout prix l'Égypte avant de subir elle aussi les coups de couteau et de voir son fils mourir sous ses yeux. Elle se décide donc pour cette équipée furtive qui lui fera quitter Rome de manière définitive. Elle n'y retournera jamais plus. Elle prend tout d'abord la direction de la Grèce, puis va atteindre, quelques mois plus tard, son pays, sa capitale, l'Égypte, pour y constater que certes celle-ci est pour l'instant prospère, mais que les troubles et que la contestation de son pouvoir, comme la contestation de celui de son père avant elle, est toujours bien présente et qu'il va lui falloir manœuvrer avec audace pour s'en sortir et conserver sa place sur le trône. Mais comme vous le savez maintenant, Cléopâtre ne manque ni d'audace ni d'intelligence et elle compte bien mener à bien son projet pour maintenir les intérêts de son royaume au plus haut. Cléopâtre est inquiète. Depuis qu'elle a retrouvé les rives d'Alexandrie, elle est toujours autant contestée par cette population qui ne lui reconnaît pas sa légitimité. Par cette population qui n'a du reste jamais réellement reconnu la légitimité de la lignée des Lagides. Cette population qui espère un pharaon réellement égyptien et de religion, de sa religion. Cléopâtre est une femme très intelligente, nous l'avons bien assez dit. Elle ne manque pas d'audace. Cependant, elle sait qu'elle est en train de buter sur quelque chose. D'autant plus que les crues du Nil ont été désastreuses. Elles n'ont pas été suffisantes pour apporter la prospérité attendue et surtout coutumière. Si bien que la reine est presque obligée de quémander l'aide de Rome pour l'aider à faire face aux divers troubles auxquels elle est confrontée. Elle sait très bien qu'elle ne peut plus compter sur l'appui et le soutien de Jules César et qu'elle ne pourra sans doute pas compter sur celui de son successeur. Octavien n'a que du mépris pour elle. Mais elle sait qu'il y a un autre esprit, une autre figure dans ce tout nouveau triumvirat. Une figure dont elle a su se faire très vite une idée. C'est celle de Marc-Antoine. Marc-Antoine est lui aussi un général romain. Mais il ne partage pas grand-chose de commun dans les qualités avec celle qu'a pu avoir Jules César. Il est, on va dire, tout son opposé. Et Cléopâtre a bien compris que pour avoir Marc-Antoine de son côté, il lui fallait utiliser ses principaux défauts. Marc-Antoine est un noceur. Il préfère les soirées et les orgies bien arrosées aux travaux au Sénat, ou aux diverses réunions et échanges diplomatiques. C'est pour cela que les premières rencontres organisées par la reine d'Égypte se font sur son bateau, sur sa galère somptueuse. Elle est elle-même somptueusement parée et lui offre un banquet digne des plus grands dieux du panthéon égyptien et du panthéon grec. Marc-Antoine est méfiant. Il a su bien évidemment toute l'influence que Cléopâtre a pu avoir en César. Mais il a surtout déjà connaissance de ce qu'est la jeune fille, parce qu'il la connaît. Oh, il ne la connaît pas intimement, mais Marc-Antoine a pu rencontrer, il y a quelques années, alors que Ptolémée Aulète, le père de Cléopâtre, était encore au pouvoir, il a pu croiser la jeune femme à la cour. Certes, ils n'en ont pas une mémoire frappante et ne se connaissent pas, mais ils ont au moins eu la possibilité de se croiser. Marc-Antoine, d'ailleurs, se sent plus à l'aise ailleurs de Rome. Et il n'a de cesse de vouloir lui aussi pouvoir s'assurer, tout comme César avant lui du reste, du soutien des territoires qui sont les États clients de la République. Il va donc solliciter bon nombre des dirigeants de ces États. Et bien évidemment, il n'en oublie pas de solliciter la protection de la reine d'Égypte. Et dans cette relation, également du donnant-donnant, Marc-Antoine va y perdre littéralement la tête. Et lorsqu'il commence à se comporter non plus en général romain, mais en véritable pharaon, Octavien comprend qu'il est plus que temps de le faire revenir à Rome. Il va donc forcer Marc-Antoine à revenir à Rome pour y épouser ni plus ni moins que sa sœur, Octavie, avec qui du reste il aura deux filles, et tout faire pour l'y maintenir. Il ne reviendra pas avant plusieurs années à Alexandrie, 4 ans exactement. Il va lui falloir 4 années avant de pouvoir avoir l'autorisation de regagner la capitale égyptienne. Et bien évidemment, les deux amants reprennent leur idylle. Idylle couronnée par la naissance de jumeaux. Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Hélios, qui seront généreusement dotés par la reine d'Égypte du reste. Seulement voilà, si Jules César est un fin stratège, il n'en est pas du tout le cas pour Antoine. Antoine enchaîne les échecs. Enchaîne les échecs contre les Parthes et contre les différents adversaires de la République romaine et de tous ceux qui refusent de prêter allégeance à Cléopâtre. Sa dernière grande bataille sera celle d'Actium qu'il va livrer contre Octave. Et il va la perdre. Il va y perdre quasiment toute la flotte de Cléopâtre, pourtant une flotte surarmée. Il va la perdre et il va se donner la mort. Il va se donner la mort parce que Cléopâtre, qui en a clairement assez des frasques de Marc-Antoine qui lui reviennent aux oreilles de manière régulière, lui fait croire qu'elle a mis fin à ses jours, ne supportant pas cette énième défaite. Antoine, apprenant cela, se poignarde. Lorsque Cléopâtre apprend la chose, elle décide, elle aussi, de mettre fin à ses jours. Et là commence la légende de la mort de la dernière reine d'Égypte. La mort de Cléopâtre nous est parvenue aujourd'hui tel un mythe. Or, comme vous le savez sûrement, tout mythe a une certaine part de vérité. Et c'est de cette part de vérité dont il va être question maintenant. Et d'autant plus que nous allons essayer de comprendre comment Cléopâtre a-t-elle pu déjouer les plans mêmes d'Octave, la surveillance même qu'Octavien avait mise autour d'elle afin de s'assurer de sa propre sécurité. Parce que depuis la défaite d'Actium, Cléopâtre est devenue la prisonnière d'Octavien. Elle est certes toujours la reine d'Égypte, mais elle a perdu de sa superbe pour Octavien. C'est ce qu'il souhaite. et il a l'intention qu'elle devienne uniquement un de ses nombreux tribuns et tribus qu'il exposera lors de son prochain triomphe lorsqu'il rentrera à Rome, auréolé de tous ses succès. Il entend bien que Cléopâtre soit son tribut de choix, celui qu'il exposera au-devant de tous les autres. Les différentes sources attestent de cela. Elles attestent également de la volonté de Cléopâtre d'annoncer et de faire annoncer à Antoine sa mort. Antoine apprend donc la mort de sa reine, alors que celle-ci est toujours vivante. Mais Cléopâtre souhaite se débarrasser d'Antoine. Elle souhaite hâter la fin de cet amant impossible, de celui qu'elle a aimé, certes moins que César, mais qui l'indispose de plus en plus. Aussi peut-on se demander si, au lieu de la peine que l'on a tant voulu lui imposer, c'est plutôt vu révéler un réel soulagement lorsqu'elle apprend qu'Antoine a mis fin à ses jours. Se met en place alors un plan pour elle, une idée. L'idée de se dérober au destin funeste prévu pour elle par Octavien, le même destin qu'a rencontré sa sœur Arsinoé quelques années plus tôt et auquel a assisté justement Cléopâtre. Car Cléopâtre a assisté déjà à un triomphe. Elle a assisté au triomphe de Jules César lorsque celui-ci est entré victorieux à Rome, auréolé de ses différentes conquêtes et de ses succès rencontrés notamment lors de la campagne de la guerre des Gaules. Et lors de ce triomphe, il expose à la vue des Romains comme tribu justement rapportée de sa campagne d'Égypte pour y faire taire les soulèvements contre les souverains légitimes du trône, à savoir à l'époque Ptolémée XIII et Cléopâtre VII, voilà qu'il expose la jeune sœur de Cléopâtre, Arsinoé, que celle-ci voit enchaînée avant d'être livrée littéralement en pâture aux tigres et aux lions. Et cela, Cléopâtre n'en veut à aucun prix pour elle. Elle ne sait que trop bien le mépris qu'Octavien a pour elle et elle sait qu'elle subira au mieux le même supplice que sa sœur Arsinoé avait subi quelques années plus tôt. Elle se décide donc, elle aussi, de hâter sa fin. Et là, les versions sur cette fin divergent. La version fantasmée, celle qui est reprise tant et tant de fois et que tout le monde connaît, est la suivante. Cléopâtre est entourée de ses deux et plus fidèles servantes, Iris et Charmion. Elles sont toutes les deux, sous une surveillance somme toute assez discrète, retenues dans le palais de Cléopâtre. Cléopâtre peut compter également sur des serviteurs de confiance prêts à lui procurer le plus discrètement possible tout ce dont elle peut avoir besoin. Elle commande donc à un de ses serviteurs de lui faire parvenir un panier de prunes et de glisser dans ce dit panier deux vipères aspic. Le messager et le serviteur s'enquièrent de sa besogne et présentent le panier à Cléopâtre. Celle-ci, avant d'avancer sa main et de l'offrir aux vipères, décide avec l'aide de Charmion et d'Iris de revêtir ses plus beaux atours, ses plus beaux bijoux et de s'allonger presque comme alanguie entre deux sommeils sur son lit d'apparat, le plus somptueux de tous. Elle tend une main vers le panier elle l'y plonge, et voilà-t-il pas qu'elle est mordue par les reptiles. Elle est mordue à la main. Le venin des aspics a un effet immédiat. Les deux servantes, elles aussi, meurent. Et voilà qu'on les retrouve toutes les trois mortes, richement parées, comme endormies. Ça, c'est la version la plus commode, la version tragique, celle qui est devenue presque un mythe. Mais nous savons, et à l'éclair et à la lumière de toutes les sources dont nous disposons aujourd'hui, en remettant les faits dans l'ordre et dans leur contexte, que la réalité a somme toute été légèrement différente. Pourquoi, dans cette version somme toute mystifiée, il y a les serpents? Que signifie-t-il? Les serpents, dans le mythe égyptien, représentent une divinité, et pas n'importe laquelle, Amon-Ré. Le fait d'avoir introduit les serpents et que ceux-ci mordent Cléopâtre permet de conférer à celle-ci toute l'immortalité nécessaire et de la faire paraître non plus comme une représentation terrestre d'une divinité, mais qu'elle en devienne une dans l'au-delà, ni plus ni moins. Cependant, la morsure est représentée de façon différente en fonction des diverses représentations qui nous sont parvenues aujourd'hui. On voit dans certains tableaux que Cléopâtre est bien mordue à la main, sur d'autres toiles, elle est mordue au sein. Cependant, quand on connaît assez bien le type de venin que dispensent les vipères aspiques, on sait que l'agonie est loin d'être immédiate. Elle est extrêmement longue. Autant dire que Cléopâtre aurait eu le temps d'être découverte par les soldats d'Octavien, voire même traînée jusqu'à lui alors qu'elle était sans doute déjà en train d'agoniser et qu'Octavien aurait pu lui faire prodiguer des soins. Et donc que ce plan vienne à échouer et que, au final, Cléopâtre servit de tribut comme il était prévu lors du triomphe d'Octavien. Cette mort mythique, mais réellement beaucoup trop longue, est impossible. La mort qui est sans doute beaucoup plus probable est une mort par empoisonnement. Que ce soit à Rome ou dans ses cours du Moyen-Orient, les utilisations nombreuses du poison sont monnaie courante. On utilise le poison dans du vin, on l'utilise sur des vêtements, on l'utilise par le biais de baumes. Bref, il y a une véritable culture du poison, un véritable art sur le sujet. Cléopâtre a pu se faire administrer le poison soit par un baume, par une crème, elle qui aimait tant oindre son corps de parfums, d'onguents, pour le rendre encore plus désirable et surtout lui conserver l'éclat de sa jeunesse. Mais ce poison aurait très bien pu se cacher également dans sa chevelure, ou plus exactement dans une épingle ressemblant à justement cette urae, ce serpent, cette incarnation d'Amon-Ré qu'elle aurait placée et piquée volontairement dans ses cheveux et qui aurait donc distillé très rapidement, voire quasi immédiatement, le poison. Le résultat est là, Cléopâtre est morte. Lorsque Octave apprend cela, il est en colère, il est courroucé indéniablement. Son triomphe tombe à l'eau, ou du moins l'idée qu'il s'en faisait. Alors, il va décider quelque chose pour l'Égypte. L'Égypte aura un statut particulier sous Octave, qui deviendra ensuite Auguste, le premier empereur romain. Certes, l'Empire est déjà à l'époque d'Auguste, à l'époque d'Octavien, en pleine expansion. Et l'Égypte aura un statut particulier à la différence de tous les autres territoires conquis. L'Égypte sera le territoire personnel de l'empereur. Il lui appartiendra personnellement et ne sera gouverné directement que par lui ou du moins par un de ses hommes uniquement de confiance venant de son cercle très proche. Et pourquoi ? Ce territoire est-il important, voire même capital pour l'empereur? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit plus haut, son grenier à grains. Et bien évidemment, il est hors de question pour Rome de perdre ce grenier à grains. Il va donc hâter la fin de celui qui aurait pu succéder à Cléopâtre et faire tout pour faire taire les héritiers de Cléopâtre et d'Antoine. Aujourd'hui, nous avons perdu la trace de la tombe de Cléopâtre et d'Antoine. Ce que l'on sait, c'est que le mausolée que Cléopâtre avait fait édifier pour elle et Antoine serait tout près à Alexandrie de celui que les Ptolémées avaient fait édifier pour rendre hommage à Alexandre le Grand. Les recherches sont toujours en cours, ce qui nous promet de belles découvertes encore d'ici quelques années et d'en apprendre davantage sur la plus connue de toutes les reines d'Égypte.